Audiolib présente Septembre noir de Sandro Veronesi. Traduit de l'italien par Dominique Vitose, lu par Michelangelo Marchese. À Manuela, as forever is. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer. Samuel Beckett. Première partie. Chapitre 1. Pour vous raconter cette histoire, je dois commencer par évoquer mes parents. Ils étaient à cette époque les dépositaires de ma sérénité. C'est donc qu'ils étaient de bons parents. J'avais 12 ans, et rien dans ma vie n'aurait pu, même de loin, rivaliser en importance avec eux. Si l'on peut dire que j'ai vécu une enfance protégée, que j'ai été un enfant heureux, c'est grâce à eux. Voilà pourquoi les événements que je vais raconter m'ont affecté si profondément. Parce que, pour la première fois, ils ne surent pas me préserver. Pire, ils furent une des causes du séisme qui me frappa. Pour la première fois, le monde venait me toucher directement, sans filtre. Et le monde brûle. C'est un feu ardent. Je l'ignorais parce que, jusqu'à ce jour, mes parents avaient toujours été là pour s'interposer. Mais cette fois, c'est en eux que s'incarna la férocité du monde. Donc, si l'on peut dire qu'à partir d'une certaine date, je n'ai plus été heureux, du moins, plus de cette façon, ce fut leur faute. Mon père était avocat pénaliste. Il était le seul dans la bourgade où nous vivions, dont je vais maintenant donner le nom, et vous allez tous penser la même chose. Vinci. Mais Léonard n'a rien à voir dans cette histoire. Je préfère rappeler un autre fait lié à ma ville d'origine, pour moi plus important même si personne ne l'évoque jamais. L'effondrement du pont sur l'Arno, le 17 novembre 1966, quelques jours à peine après l'inondation qui frappa Florence et toute sa province. Plus encore que l'inondation elle-même, ce fut le premier traumatisme de ma vie. Le pont fut emporté par la rivière et, comme les agglomérations voisines, Vinci se retrouva coupé du reste du monde. Cet isolement dura plusieurs jours. Pas d'école, pas de catéchisme. Des familles furent séparées et ceux qui, comme mon père, devaient aller à Florence pour leur travail, étaient contraints de faire un long détour par des routes de montagne devenues dangereuses. J'entendais dire que cet effondrement était très grave parce que le pont n'avait que 12 ans. Moi, j'en avais moitié moins, et 12 ans me paraissait beaucoup. Mais quand, 6 ans plus tard, ce fut mon tour de m'effondrer, je m'aperçus qu'en effet 12 ans, c'est peu. Voilà pourquoi je me souviens si bien de l'époque de l'inondation et de la rupture du pont. Ce pont et moi avions le même âge quand nous avons été frappés, lui par la nature, moi par les hommes. Et il s'agit d'un âge où certaines choses ne devraient pas arriver, ni au pont, ni aux hommes. C'est trop tôt. Je reprends. Mon père, donc, avocat pénaliste, avait un petit cabinet à Vinci, et un plus grand à Florence avec un associé, un certain Cernese. Pour ce que j'en savais, il défendait les innocents et la garantie de leur innocence, c'était qu'il les défendait. Homme bon et plein de vie, beau de la beauté de l'époque, c'est-à-dire maigre, le visage creusé et les bras musclés, il avait des cheveux noirs comme la robe d'un cheval frison, des yeux sombres mais lumineux, et une bouche large et rouge, faite pour sourire. Il adorait le sport, ce n'était pas un gros gabarit, mais il soutenait qu'il avait joué au rugby quand il était jeune et pratiqué le judo, qu'il appelait « lutte japonaise », ainsi que le karaté. Impossible à vérifier. Pas de doute, en revanche, c'était un fou de mer et de voile, qui consacrait tout son temps libre au voilier sur lequel il naviguait en été. À l'époque où se déroulent les faits que je vais raconter, il possédait un catégorie A en bois, appelé « Tivatu », qui requérait des soins un an plus finir, et je me souviens de dimanches d'hiver à la limite du supplice, où il m'emmenait à Fiumetto, en Versilia, poncer la carène, réparer les failles, vernir, briquer, entretenir et protéger cette coque comme s'il s'agissait d'un enfant, comme s'il s'agissait de moi. En fait, il aimait tous les voiliers, avec une préférence pour les petits dériveurs rapides qu'on pouvait tirer sur la plage à force des bras. Il lui arrivait même de participer à des régates avec Gianfranco, le propriétaire de la plage Stella, où nous allions pendant les vacances, et un de ses frères qui s'appelait Giuseppe. Il ne gagnait jamais. Chez nous, dans la bibliothèque du séjour,